On va prendre d'abord Luc 10, le plus grand des commandements. Je ne sais pas si tout le monde y est, ou vous avez votre appli aussi, votre appli en polonais, Luc 10, 25. Luc 10, 25, donc pour réfléchir, c'est comment aimer Dieu de tout son esprit, avec toute son intelligence. Donc c'est toujours intéressant de voir ça et de lire où est-ce qu'on trouve ça. C'est le commencement de la parabole du bon samaritain, que vous connaissez par cœur. Mais on va lire juste le début. Et voici qu'un légiste, c'est-à-dire un docteur de la loi, c'est bon pour vous ? Un docteur de la loi se leva et lui dit, pour éprouver Jésus, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Il lui dit, « Dans la loi, qu'y a-t-il ? Comment lis-tu » Celui-ci répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Alors, je trouve ça intéressant de commencer par ce passage-là, parce que c'est le seul moment, disons en tout cas le moment privilégié, où il est dit justement d'aimer Dieu de tout son esprit. Et vous remarquez bien, si vous avez vos Bibles respectives, que autant le reste est écrit en italique, quand le docteur de la loi cite, mais quand il dit de tout ton esprit, ce n'est pas en italique, c'est-à-dire que c'est lui qui le rajoute. C'est lui qui rajoute de tout ton esprit. Or, la citation vient de Deutéronome 6. Mais Deutéronome 6 ne marque pas de tout ton esprit, donc de toute ton intelligence. Donc c'est assez intéressant de dire que... Alors, il nous est demandé d'aimer Dieu, au fond, de tout ce qui constitue notre être, hein, alors, de tout notre cœur, c'est-à-dire le centre des décisions, le lieu des décisions en nous, hein, de toute notre âme, ce qui est principe de vie en nous, de toute notre vie, ce qui doit être ordonné à Dieu, et de toute notre force qui renvoie à l'action, hein, qui est appelée à viser toujours Dieu comme finalité. Et je pensais ça dans le cadre du témoignage, parce que votre thème d'année, si j'ai bien compris, c'est le témoignage. Et vous avez à rendre témoignage, vous qui êtes au contact d'universitaires, vous avez vraiment à rendre témoignage. Comment aimer Dieu de toute son intelligence ? Parce que c'est rendre de témoignage. Et du coup, on va essayer de réfléchir là-dessus, de voir comment est-ce que ça se fait que dans Luc 10, on voit un rajout dans le commandement par rapport à la loi, hein, aimer Dieu de toute notre intelligence. Hein, qu'est-ce que ça vient faire ? Pourquoi cette irruption de l'intelligence dans notre relation à Dieu ? Et je pense que ça, là, vous pouvez donner un témoignage. Parce qu'au fond, le témoignage que l'on donne, c'est le témoignage de l'amour. Et ça, on le sait bien, le témoignage de la charité. Donc, aimer Dieu de tout son... Et, au fond, le fait de l'aimer, mais l'aimer avec tout son esprit, toutes ses facultés intellectuelles, est aussi une forme de témoignage. Alors, comment est-ce que ça se vit ? Alors, le premier point qu'on peut voir, c'est comment est-ce que l'intelligence peut nous éloigner de Dieu ? Ça, c'est la première chose. Et les dangers, en petite 1-1, les dangers de l'intelligence orgueilleuse. En Matthieu 11, on lit « Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » L'invitation font la reconnaissance de notre pauvreté comme l'enfant qui se tourne toujours vers l'autre pour savoir dans la reconnaissance qu'il ne sait pas. Et c'est vrai que la Bible dénonce très régulièrement les orgueilleux, c'est-à-dire ceux qui se servent de leur intelligence, mais pour se mettre au-dessus des autres. Et au contraire, Jésus lui renvoie l'enfant, hein, celui qui se comporte comme cet enfant, voilà, appelant un enfant au milieu d'eux, etc. Et puis il le monte, il le désigne comme un modèle. Et je trouve au niveau de notre intelligence intéressant que l'intelligence, il y a un combat dans l'intelligence. Un combat spirituel dans l'intelligence, et ce combat, c'est le combat pour l'humilité. Et ça, je pense que chacun de nous, on a à le livrer. Hein. Le danger du sage, c'est de s'asseoir sur son tas de connaissances. Hein. comme le riche sur ses récoltes, de ne compter plus que sur lui. Vous connaissez ce passage du riche qui amasse, etc. Et il disait, voilà, j'ai amassé mes biens, il voulait même construire des greniers encore plus grands, etc. Vous connaissez ce passage-là. Et voilà. Et il dit à un moment donné, repose-toi, mon âme. Repose-toi, mon âme. Et c'est-à-dire, au fond, il se repose dans cette accumulation de richesses, mais parfois on peut se reposer dans les accumulations de connaissances. Et ça, je pense que c'est aussi intéressant de le noter, de dire que l'orgueil peut consister à une forme de paresse. Et bon, vous connaissez le lien entre les différents péchés capitaux, hein, évidemment les deux, orgueil et paresse, en sont, mais l'orgueil est le capitaine des capitaux, si on peut dire, hein, c'est à la tête de tout. Hein, et justement, d'avoir cette attitude d'enfant à laquelle le Seigneur nous appelle, je trouve ça intéressant. Le danger de l'intelligence, c'est l'orgueil. Alors, moi, je vois en 1 Corinthiens 1, si vous avez un peu vos Bibles, vous pouvez regarder ça. 1 Corinthiens 1, 26-31. Hop. Aussi bien, frères, considérez votre appel. Il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de gens bien nés. Mais ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les forts. Ce qui est dans le monde sans naissance, voilà ce que l'on méprise, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est, afin qu'aucune chair n'aille se glorifier devant Dieu. Alors, je trouve ça beau, ce passage-là de saint Paul, qui nous invite au fond à cette grande humilité, et de voir aussi que le Seigneur nous a choisis aussi, nous qui sommes ici, vous qui êtes au contact de ce monde intellectuel, dans votre travail intellectuel, dans votre travail universitaire, nous a choisis pour rentrer dans une autre logique. Ce n'est pas la logique du monde. Et ça, je pense que c'est important. Et vous pouvez donner un témoignage comme ça, hein, à la fois d'être très compétent dans vos secteurs, d'être vraiment bon. Et ça, je le dis à tous ceux auxquels je parle, qui sont même dans le monde de l'entreprise, etc. Soyez les meilleurs dans votre domaine. Et en même temps que d'être les meilleurs, en même temps d'avoir cette humilité. Au fond, je ne sais rien. Je sais que je ne sais pas. C'est toute la philosophie grecque, hein, part de là. Il y a un autre danger, donc le danger de l'intelligence orgueilleuse, là, le danger de l'intelligence qui prétendrait avoir trouvé la vérité. Hein, le risque de la philosophie, c'est croire que l'on a trouvé la vérité. Hein. Or, philosophie, c'est l'amour de la sagesse. C'est quelque part être toujours en recherche. Et le chrétien non plus ne possède pas la vérité, ça faut être attentif à ça. Il y a des personnes qui pensent qu'ils possèdent la vérité, qu'ils ont mis à là, ça ils l'ont. Hein, le désir quelque part d'une certitude, et que cette certitude, c'est moi qui la construis. C'est le péché de Descartes, certainement. Hein, Descartes, vous le savez, dans son discours de la méthode, voulait trouver une méthode qui soit sûre. Il voulait trouver une méthode qui, d'une manière, conduise de façon inéluctablement à la vérité. Parce qu'il s'était aperçu que ce qu'il avait reçu comme enseignement, bah, le trompait, en tout cas il n'était pas d'accord avec cet enseignement-là, qui était la scolastique. Voilà. Et donc, ils disent non, on nous dit que l'intelligence passe par les sens. Or, disait Descartes, les sens nous trompent. Et vous vous rappelez de vos études de philosophie qui sont plus ou moins récentes, vous vous rappelez l'exemple du bâton, le bâton qui est trempé dans l'eau et qui semble cassé, alors qu'au fond, quand vous le levez et sortez hors de l'eau, il n'est pas du tout cassé. Donc du coup, ils disent, vous voyez bien que les sens nous trompent. Simplement, ce qu'il ne dit pas, c'est que les sens ne nous trompent pas quant à leur objet propre. La vue a comme objet propre les couleurs, et le toucher a pour objet propre l'extension. Donc du coup forcément, ce n'est pas tant avec la vue qu'il faut voir si le bâton est cassé ou pas, mais plutôt avec le toucher. Bon voilà, bon, ça c'est, et c'est assez intéressant de voir qu'il y a eu ce désir de trouver quelque chose, voilà, dans lequel on puisse quelque part enfermer la vérité. Voilà, la vérité c'est ça. Même le chrétien ne possède pas la vérité. Et je pense que c'est très important aussi que nous-mêmes, comme chrétiens, nous ne soyons pas des personnes qui donnions des leçons. Non, nous la montrons, la vérité, nous la contemplons. La vérité n'est pas quelque chose, mais quelqu'un. Hein, je suis, moi, la vérité. Et ça, je pense que l'orgueil de l'intelligence, c'est une manière de désamour et de non-témoignage de l'intelligence. C'est précisément ce moment où on peut dire qu'on s'enferme dans un désir de vouloir posséder, hein, et non plus, alors que l'intelligence, elle est faite pour contempler la vérité. Nous, on dit la vérité, on la montre, mais on ne la possède pas. Celui qui dit, vous savez, je l'ai, il l'a déjà perdue. Et ça, je pense que c'est important aussi pour nous qu'on ait aussi cette dimension-là, dans, et particulièrement dans votre travail intellectuel, cette dimension de contemplation, cette dimension de il y a quelque chose qui nous dépasse, il y a quelque chose duquel on approche, mais on est encore loin. On est encore loin du compte. Hein, alors. Je pense que bon, c'est vrai de la philosophie, mais c'est vrai aussi de, pourquoi pas, de la géographie aussi. Hein. Il y a même si je connais mal cette science, mais bon, il y a des choses qui, j'imagine, doivent aussi vous échapper, etc. Le danger, autre danger, le danger de l'intelligence qui peut enfermer sur soi en réduisant l'être à ce qu'elle peut comprendre de l'être, à ce qu'elle peut comprendre de l'objet. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? C'est je comprends quelque chose de cet objet, qu'est la table, que cet objet, qu'est le verre, etc. Mais je dis ce que je comprends, voilà ce qui est. C'est-à-dire, au lieu de me mettre dans une attitude d'humilité qui accueille le réel, qui vient féconder mon intelligence, je me mets dans cette attitude d'orgueil. C'est moi-même qui suis à la source et je dis c'est ceci parce que je l'ai pensé. Et ça, c'est beaucoup dans la philosophie moderne, parce que les grands enjeux, ils sont dans la philosophie, évidemment, et singulièrement dans la métaphysique. Est-ce que l'être des choses est connaissable? Est-ce qu'on peut connaître? Ou est-ce que l'être... Et donc, est-ce que c'est l'objet qui vient... L'objet, quand je dis l'objet, l'objet, une personne peut être un objet dans ce sens-là. L'objet de connaissance peut venir féconder mon intelligence, ou est-ce que ce que j'ai dans l'intelligence va pouvoir définir ce qui est en face de moi, c'est-à-dire l'objet, le verre, la personne, le fœtus. Que je dis qu'il y a, par exemple, on l'a vu à l'Assemblée nationale très récemment, une dame du Parti socialiste menant une grande campagne, etc., en disant « il n'est d'enfant que s'il y a un projet parental ». Nous disons non. Qu'il y ait projet parental ou pas, l'enfant est dans le sein maternel. Oui. Les vraies questions, elles sont métaphysiques. Hein, et donc, du coup, je pense que la difficulté avec une part de la société, c'est par rapport à ça. Est-ce que c'est l'objet qui est premier et qui vient féconder mon intelligence, et donc je reçois par les sens cet objet, et je suis dans une étude d'accueil, de contemplation, ou est-ce que c'est moi, avec ce que je dis, hein, qui dit cela est ou cela n'est pas? Et c'est important, là, la question cette question-là de est-ce qu'on réduit l'être à ce qu'on en comprend, ou est-ce que mon intelligence vient au contraire être fécondé, va être dans une humilité, d'être dans l'accueil de ce que je reçois. Ou est-ce qu'au contraire, va vouloir déterminer, et du coup, voilà. Il y a une forme de toute puissance de l'intelligence aussi, qui a cette capacité de dire, et c'est beaucoup dans la philosophie moderne, hein, qui dit, voilà, c'est d'abord le sujet qui pense. Vous avez évidemment ça dans Descartes. Hein, dans Descartes, il en arrive à la fin de son discours de la méthode, il en arrive à dire, je pense... Donc, je suis dire, ce que je pense, voilà ce qui est sûr. Et Et vous avez peut-être vu toujours tout ce tableau de Descartes qui représente Descartes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce grand tableau qui représente Descartes, qui, en fait, vous pouvez essayer de le voir, je ne me rappelle plus le peintre, mais il y a tout un fond noir, lui-même est en habit noir, il a une collerette blanche, et son visage est un peu assez lumineux. Et c'est intéressant, ce tableau-là, parce que ce tableau, les intellectuels d'alors se faisaient représenter comme avec un livre ou une bibliothèque derrière eux, et puis même on voit des statues ou des représentations de la Vierge Marie portant un livre. Elle reçoit la parole de Dieu, elle la contemple, elle la médite dans son cœur. Et chez Descartes, c'est pas ça, il n'y a pas de livre, il n'y a rien. C'est lui, c'est tabula rasa. C'est lui qui a la source des choses. Je suis à la source de la connaissance. Ce que mes maîtres m'ont enseigné auparavant n'est pas sûr, la preuve, c'est pas sûr. C'est des choses tout à fait aléatoires. Non. Ce que moi je pense, voilà ce qui est sûr. Et on aboutit évidemment aujourd'hui à ce qu'on appelle le relativisme. Hein, le relativisme, c'est à chacun sa vérité, forcément. Hein, le relativisme, c'est-à-dire que... Et du coup, la difficulté de dialoguer, parce que si on n'est pas d'accord sur la définition d'un objet, comment pouvez-vous dialoguer si on n'est pas d'accord? C'est le face-à-face d'orgueil et d'ego et qui veulent avoir raison. Et non pas... tu parles du bien commun, le commun, Johan, mais voilà, mais... C'est le bien commun, ça demande une définition. Et donc, alors c'est vrai que l'Église, ça l'aggrave, on verra un petit peu après le lien entre foi et raison. Mais on voit bien qu'il y a un combat dans l'intelligence. Et vous qui êtes dans des métiers intellectuels, vous avez un combat spirituel particulier à livrer. Vraiment, j'en suis conscient. De même que les artistes aussi. Bon, c'est aussi des intellectuels à leur manière, mais ce combat-là, c'est ne pas se repaître de ce que l'on connaît, ne pas se repaître de soi-même. Hein, c'est Jean-Paul II qui disait de façon très belle dans « Mémoire et identité », je ne sais pas si vous avez lu ce livre-là, « Mémoire et identité », il dit « L'intelligence qui se prend elle-même comme objet, eh bien, elle est plus féconde, elle tombe sur elle-même, quoi. Elle se prend elle-même comme objet. Vous voyez, elle se repaît d'elle-même. Au lieu d'accueillir quelque chose extérieur qui vient l'enrichir, et au lieu d'être dans la contemplation. Et bon, évidemment, la contemplation de Dieu, évidemment, ça vient évidemment après, mais c'est très lié. Tout ça, c'est très lié. La manière de connaître. La philosophie de la connaissance, la manière de connaître, dira aussi quelque chose de ma manière de croire. Parce que croire, c'est une certaine connaissance. C'est une certaine connaissance que me donne la foi. Donc, je trouve ça intéressant que vous ayez en tête que votre témoignage comme intellectuel, vraiment, que ce soit un témoignage d'humilité à la fois de grandes compétences. Soyez les meilleurs dans vos domaines respectifs. Et à la fois de grande humilité. C'est comme ça que vous pourrez être audible. Parce qu'on se pose la question, mais comment être audible dans notre machin, dans la faculté, etc. Allier les deux. Et grande compétence et grande humilité. C'est les maîtres. Les maîtres, c'est ceux-là. Hein, les vrais maîtres, c'est ceux qui allient les deux choses. Et du coup, parce qu'un professeur peut faire beaucoup de bien aussi. Ça, je pense que prenez conscience du bien que vous pouvez faire. Si vous êtes là, peut-être qu'il y a eu un professeur à l'origine, quand vous étiez en terminale, quand vous étiez en tout début de votre carrière, en licence. Il y a peut-être eu quelqu'un, il y a toujours des personnes. Pourquoi est-ce qu'on choisit la géographie? Pourquoi vous choisissez ça, l'urbanisme? Il y a des personnes qui vous ont donné le goût. Hein, et donc, du coup, je pense que ces personnes-là, vous avez reconnu, vous avez peut-être un maître ou des personnes qui vous ont guidé à un moment donné de votre vie intellectuelle, qui vous ont amené à une certaine émerveillement. Au commencement de la philosophie, il y a l'émerveillement. Hein, qu'est-ce que c'est? Je suis dans l'attente, je suis émerveillé, c'est quoi ça? Et du coup, mon intelligence se décentre d'elle-même pour regarder l'objet et l'accueillir. et non pas d'être dans une forme d'ego et de je parle de moi, c'est beaucoup Kant par exemple, c'est beaucoup la philosophie allemande, etc. Mais vous voyez au niveau de la vie spirituelle la différence. Ça induit des différences considérables. Qu'on parle de l'objet contemplé, connu, ou du sujet qu'il connaît, qu'on donne la priorité à l'un ou à l'autre, c'est pas du tout pareil en termes de vie spirituelle. Et c'est vrai que les anciens, quand je dis les anciens, c'est la philosophie grecque, sont beaucoup plus du côté de la vie contemplative. L'intelligence est amenée à se contempler. Et à tel point que nous pensons que cette intelligence qui nous fait être à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu par notre intelligence et par notre volonté, par notre capacité de connaître et par notre capacité d'aimer, parce que la volonté, c'est la capacité d'aimer. Eh bien, cette intelligence-là, elle sera rassasiée de la contemplation de Dieu dans l'au-delà. Mais on la forme, c'est important d'emmener au plus loin que peut chacun dans sa capacité de connaître, parce que de là dépend aussi de sa capacité d'accueillir Dieu. Je pense que c'est très beau. Et en même temps, de découvrir comment, à travers ça, il y a un vrai chemin de vie spirituelle et un vrai chemin de sainteté aussi, ça c'est sûr. Attention de ne pas se prendre soi-même, de s'enfermer sur soi en réduisant l'être des choses à ce que je peux en comprendre. Mais il y a une forme de conversion de l'intelligence. Et c'est vrai que les grandes conversions, c'est beaucoup, souvent, il y a des conversions de cœur, du cœur, parce que le cœur était dans des pratiques de personnes pas trop soit votre cas, qui ont commis des péchés très graves, de meurtre, qui leur cœur était touché, ils ont demandé pardon, la miséricorde, etc. Mais beaucoup, beaucoup de ceux à qui vous avez affaire, la conversion qui est en jeu, c'est la conversion de l'intelligence. Qu'elle devienne cette béatitude, c'est-à-dire le fait que l'intelligence soit rassasiée un jour, cette béatitude, elle passe par les pauvres. C'est la première des béatitudes, heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux, et vous le savez, c'est la première béatitude qui est au présent alors que les autres sont au futur. Et donc du coup, cette béatitude-là, elle touche l'intelligence de façon suréminente, parce que précisément, elle nous appelle dans notre manière de connaître d'être aussi des pauvres, d'être vraiment des pauvres, je chemine, je suis bon. En chemin, je continue. Oui, j'ai découvert des choses, oui, j'ai écrit des ouvrages, j'ai publié mes recherches, oui, et tant mieux, et continuez. Et soyez encore une fois les meilleurs. Mais en même temps, soyez attentifs que tout ça vous emmène dans une grande humilité. Vous n'en serez que davantage crédible. Ça, c'est évident. Pour moi, c'est évident. Quelqu'un qui sait et en même temps reste humble, il est beaucoup plus crédible que celui qui sait et s'enorgueillit, se gonfle. C'est comme l'artiste, d'une certaine manière. Je pense souvent aux artistes. Il y a un combat spirituel des artistes. Les artistes, c'est quoi leur combat spirituel? Que je le perçois, mais c'est vraiment de ne pas se répéter de leur art, mais vraiment de... Parce que l'âme artiste est très sensible, forcément, par définition. Je veux dire, c'est... Et donc, du coup, il peut y avoir ce désir ce mouvement de faire boucle sur soi. C'est-à-dire que voilà, ce que je produis au plan artistique, eh bien, me réjouit, mais en même temps, je me repais de ça, etc. Or, l'artiste est amené justement à montrer le beau. Si l'intellectuel est amené à montrer le vrai, l'artiste est amené à montrer le beau. Et le beau, forcément, c'est un dépouillement. C'est un décentrement de soi-même. Vous êtes appelé par votre vie intellectuelle à vous décentrer de vous-même. C'est toute la vie chrétienne. C'est évident. C'est toute la vie chrétienne qui est comme ça. À se décentrer de soi-même. C'est pour ça qu'on a besoin de la grâce de Dieu. J'aime bien cette phrase du curé d'Ars, qui disait « L'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu ». Alors, ça c'était la première partie, l'intelligence qui a des combats, l'intelligence qui peut éloigner de Dieu, l'intelligence qui est en danger, voilà, ça c'est un peu les choses. Ensuite, l'intelligence, la relation à Dieu ne peut se passer de l'intelligence, ça c'est aussi une chose très importante, et qui est typiquement chrétienne, je trouve, de ce point de vue-là. Vraiment, la confiance chrétienne en l'intelligence, dans sa capacité de mener à Dieu. La foi chrétienne est une invitation à user ce don de l'intelligence en un optimisme anthropologique. Toute personne a en elle-même une porte d'accès à la vérité par cette raison. C'est très important, c'est de dire que dans la foi chrétienne, on ne se méfie pas de l'intelligence. Au contraire, et c'est le génie aussi du christianisme et des débuts de l'Église, d'avoir intégré dans la foi toute la philosophie grecque. Et ça, je pense que c'est très important. Qui fait que, entre autres, la vie chrétienne a trouvé un tel retentissement auprès des intellectuels de l'époque, et au moment de la Rome antique, etc. Parce que, aussi, elle nourrissait l'intelligence. L'Évangile, il est fécond pour l'intelligence, mais il est fécond pour le cœur aussi. Je veux dire, c'est les deux. Et je pense que c'est intéressant de dire qu'il y a une confiance dans cette capacité de l'intelligence de connaître Dieu. Soyons confiants là-dessus. Ce n'est pas un danger. Hein. Au contraire, l'Église n'a eu de cesse partout où elle était, c'est de former. Les premières universités, on sait très bien quand est-ce qu'il les a formées, à commencer par la Sorbonne, etc. Je veux dire, bon, c'est vraiment, parce que c'était justement ce désir d'éduquer, d'emmener l'intelligence des uns et des autres plus loin. Hein, et partout où elle est, l'Église, elle forme, hein, selon cet adage, hein, humaniser pour diviniser, hein, c'est diviniser pour humaniser, parce qu'il faut d'abord humaniser, je veux dire, dans des lieux de grande pauvreté, dans des lieux de... Voilà, c'est les soins, c'est l'école, c'est l'attention aux pauvres, aux vieillards, etc., aux démunis. Bah, l'Église, elle est au front là-dessus, bah, dans tout, et en particulier au plan intellectuel. Hein, parce qu'elle elle a senti que là, il y a quelque chose, un lieu qui peut rapprocher de Dieu, qui est un lieu de combat, on l'a vu dans la première partie, là, dans notre méditation, qu'un lieu de combat, mais qu'un lieu qui rapproche aussi de Dieu. On ne peut pas se rapprocher de Dieu sans une certaine connaissance. Et chacun a sa mesure. Chacun a sa mesure. Et ça, je pense que c'est important. Il y en a qui ont reçu des grandes intelligences, des grandes capacités, etc. D'autres moins. Bon, voilà. Mais justement, ce que tu as révélé aux pauvres et aux petits, tu l'as caché aux savants. Les pauvres et les petits connaissent quelque chose d'une autre manière que d'autres qui ont de plus grandes capacités intellectuelles. Et je trouve que vous pouvez donner ce témoignage de cette confiance dans l'intelligence humaine qui peut mener à Dieu, qui peut, quand elle est, en fait c'est ça, quand l'intelligence est collée au réel. C'est tout le combat de l'intelligence, c'est de rester collé au réel. C'est-à-dire, de rester collé à ce qui est, et non pas d'être soi-même source de ce qui est. C'est capital. La vérité, pour en tout cas le philosophe, c'est l'adéquation de l'intelligence avec ce qui est. Je mets le mot là dans mon... Et le mot est le signe de la chose, je veux dire, de ce qui est. Donc, et on voit bien, c'est, l'intelligence a pour vocation de découvrir l'être des choses. Et en même temps de se laisser dépasser par ça. Bon, bref, donc toujours est-il très important, la vie chrétienne a eu ce sentiment que l'intelligence était un atout pour l'évangélisation. Vraiment un atout. C'était pas un obstacle pour l'évangélisation, mais peut clairement mener à Dieu. Hein, la foi chrétienne est une invitation à user de ce don de l'intelligence. En un optimisme, c'est un optimisme. Et non seulement l'user de l'intelligence, mais l'intelligence est nécessaire à la foi. Vous vous rappelez le texte de Jean-Paul II, hein, Fides et Ratio, hein, notre foi, elle est la foi élève l'intelligence à une réalité qui n'est pas accessible au sens. C'est ça la foi. Elle élève l'intelligence inaccessible à quelque chose qui n'est pas accessible. Mais la foi est dans l'intelligence. La difficulté, c'est si on met la foi ailleurs. On peut mettre la foi, par exemple, dans la sensibilité, dans le ressenti. On voit des gens qui disent « Ah, ça me fait des choses, etc. » Mais non, ce n'est pas la foi. Je veux dire, c'est très bien, ça te fait des choses. Mais la vraie foi, c'est... Elle éclaire l'intelligence, elle a besoin de l'intelligence pour s'exprimer, etc. Il y en a d'autres qui mettent la foi dans la volonté. Ce n'est pas non plus sa place. Du coup, c'est un peu la difficulté aussi qu'on a en ce moment avec l'islam, c'est que c'est un volontarisme. C'est pourquoi si je prends ce verre, je le laisse tomber, c'est que c'est Dieu le veut. Si ça tombe, c'est Dieu le veut. Ben, nous, on dit non. Ce n'est pas que Dieu le veut, c'est que Dieu a créé les mondes et il laisse les mondes eux-mêmes capables d'avoir leur propre loi, et la loi de la gravité fait partie de ces lois. Mais c'est parce que Dieu le veut que quand je laisse tomber le verre, il va tomber par terre. Voilà. Vous voyez, ce volontarisme. Et vraiment, cette grâce d'avoir ce lien entre foi et raison qui fait défaut à d'autres religions, vraiment, et qui est source de vraiment grandes difficultés. Hein. Mais nous, on a, depuis le début, c'est vraiment le début des christianismes, on a perçu qu'il y avait un lien entre les deux. Parce qu'on est la religion de l'incarnation, et parce qu'on est la religion de l'incarnation, on perçoit que dans toute la personne humaine, tout l'homme est capable de mener à Dieu. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui était énorme, qui fait notre force. Il y a des conversions intellectuelles. Un maritain, par exemple, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, maritain, bon, un maritain a été converti intellectuellement. Il a vu que le monde chrétien, c'était son monde, quelque part, il se reconnaissait dans ce que disaient les chrétiens, il reconnaissait un bien pour son intelligence. Et donc je pense que vous pouvez donner un vrai témoignage d'une foi qui ne tombe pas dans le fanatisme, parce qu'elle est liée à l'intelligence, elle est liée à un discours, elle est à une compréhension des choses, elle fait appel à la philosophie, à d'autres choses, voilà, pour essayer de se construire, du coup, on n'a pas peur du tout de se chercher, on n'a pas peur du tout de transmettre, parce que tout ce qu'on transmet, etc., d'une manière ou d'une autre, peut aider aussi la personne qui est de bonne volonté, son intelligence à se rapprocher du Seigneur. Hein, on n'a rien à cacher de ce qu'on connaît, les choses de la nature, par exemple, tous les physiciens, les chimistes, qui étudient les lois de la nature. Ben, plus on étudie les lois de la nature, plus quelque part on se rapproche de Dieu aussi. Hein, donc je crois que c'est un témoignage à donner de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'il y a une conversion de l'intelligence. Le problème n'est pas l'intelligence ou la philosophie, c'est qu'est-ce que de faire de l'un des deux un Dieu. C'est ça, c'est pas tant l'intelligence qui est un problème, c'est d'en faire un absolu. Ce que je connais est un absolu. Hein, ce que je connais est un absolu. Je pense. Prenons Freud, par exemple, qui n'est pas un philosophe. Il a vu dans l'instinct sexuel, mais pour lui, ça explique tous les actes. C'est ça la difficulté. L'idéologue, il a perçu quelque chose, c'était vrai aussi dans le communisme, il a perçu quelque chose de vrai. Mais ce qu'il a perçu de vrai, il l'a absolutisé à tout. Ben, ça devient une idéologie. Et quand ça prend la partie politique, ça devient une dictature. C'est que ce qu'on a découvert de vrai, au lieu de dire c'est une parcelle du vrai auquel j'ai accès, non, on l'absolutise, on dit c'est tout. On prend la partie pour le tout. Et ça, c'est la grande misère de toutes les idéologies et de toutes les dictatures et de tous les fanatismes. Il y a une partie qu'on absolutise. Donc voilà, je trouve ça intéressant de voir qu'il y a une forme de conversion de l'intelligence, etc., et de faire que l'une et l'autre, et le Christ nous invite à une forme, à une nouvelle sagesse, qui sache reconnaître sa pauvreté et qui sache suivre le Christ, voilà. C'est une nouvelle sagesse, comme on voit dans la lettre aux Corinthiens, voilà, ce que Dieu a choisi, hein, voilà, on rentre dans une autre logique, on rentre dans la, Notre intelligence a passé par la béatitude des pauvres aussi, par la béatitude de l'humilité, à l'exemple de la Vierge Marie. Je trouve que la Vierge Marie, vraiment, ça, et cette personne humaine qui a accueilli le mystère de Dieu dans son intelligence, parce que c'est dans la foi, jusqu'à ce que Jean-Paul II dise, elle a conçu par la foi la Vierge Marie, hein, et donc du coup son intelligence, et encore une fois, c'est pas pareil que l'érudition de l'intelligence, c'est pas pareil, hein, c'est autre chose. Et donc du coup son intelligence a été capable de percevoir le mystère de Dieu et d'y adhérer. Quelque part, la foi nous rend plus intelligents quand elle est bien vécue. Alors, cette intelligence, un dernier point, c'est vrai, elle est faite pour aimer Dieu et donc donner témoignage, vous-même, à votre manière de cet amour de Dieu. Le remède à l'intelligence blessée, c'est la tournée vers Dieu. Qu'est-ce qui blesse notre intelligence? Il y a deux choses. Il y a l'ignorance et l'erreur. L'ignorance et l'erreur blessent l'intelligence. Et donc, quelque part, on a, pour guérir notre intelligence blessée, et on l'a, eh bien, on a la tournée vers Dieu qui est la source de tout bien, de toute connaissance, hein, et de mettre cette condition, cette connaissance de Dieu, qui va au-delà d'une compréhension qui demande l'amour. C'est là où je trouve que c'est très beau dans la dimension chrétienne. L'amour précède la connaissance. C'est-à-dire que l'amour, on connaît Dieu parce qu'on l'aime. Et plus on l'aime, on le connaît. Et plus on le connaît, plus on l'aime. Et donc, ce qui vient guérir notre intelligence, c'est cet amour qui vient nous donner une manière de connaître. Et connaître, vous savez, dans le langage biblique, ça désigne l'intimité de l'homme et de la femme, hein. Je ne connais pas d'homme, hein, la Vierge Marie qui dit ça à l'ange, c'est pas qu'elle connaissait pas d'homme, elle connaissait déjà son fiancé, elle connaissait son père, etc. Mais je ne connais pas d'homme au sens de l'union charnelle, de l'union intime. Hein. Et donc du coup, c'est très intéressant de voir au fond, qu'est-ce qui nous permet de connaître Dieu de façon intime, si ce n'est de l'aimer. Hein, et de l'aimer de tout son cœur. Hein. Et donc, comme dit le Deutéronome 6. Hein, et donc voilà, je trouve ça très beau vraiment de cette intelligence qui peut devenir au fond une ouverture à l'amour de Dieu, hein, ramène tout à ce qu'elle prend pour objet, hein, la finalité de l'activité intellectuelle n'est pas en elle-même mais dans la rencontre de l'être, hein, de l'être. De ce qui est la rencontre de l'être, mais aussi la rencontre de l'être avec un grand E, qui est la personne de Dieu. Et Plotin qui disait, et c'est intéressant ça, quand la pensée ne parvient plus à saisir l'un, c'est-à-dire à saisir Dieu, elle doit prolonger l'acte de l'intellect par celui de l'amour, qui va plus loin que l'intelligence. Alors, aimer Dieu de toute son intelligence, on voit bien que c'est très beau, et c'est intéressant ça de voir un peu comme conclusion de voir au fond dans la parabole du bon samaritain. Pourquoi est-ce que le docteur de la loi dit ça, aimer Dieu de toute son intelligence? Est-ce qu'au fond, alors que ce n'est pas dans la Torah, il est docteur de la loi, donc c'est-à-dire qu'il connaît la Torah, c'est la loi. Donc il connaît la Torah sur le bout des ongles. Si vous me demandez de la géographie, vous connaissez en tout cas un certain nombre de basiques sur le bout des ongles. Voilà, lui, pareil, il était docteur de la loi. Comment est-ce qu'il va rentrer quelque chose qui n'était pas dans... Qui lis-tu? C'est ça que la question de Jésus au début. Que lis-tu dans la loi? Il rajoute, aimer de tout son esprit. Quelque part, la rencontre avec le Christ nous donne une connaissance supplémentaire par rapport à l'ancienne alliance. Ça nous donne de rentrer dans une... au fond, une... Comment on peut dire ça de, oui, une... Une intelligence des choses qui est autre. La rencontre avec le Christ pour cet homme, le fait découvrir, va bousculer sa vie, à tel point que même la définition de prochain, vous vous souvenez, vous pourrez relire à l'occasion, à Luc 10, le bon samaritain, samaritain ça veut dire gardien, celui qui est gardien, hein, et Jésus lui pose la question, parce qu'il lui pose la question, mais qui est mon prochain ? rappeler ce passage-là, qui est mon prochain, etc. Ben, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, etc. Il tombait, vous connaissez ça par cœur. Mais ce qui est intéressant, c'est que il se pose la question, lui pose le docteur de la loi, qui est mon prochain? Et à la fin, Jésus répond, qui s'est fait le prochain de l'autre? Le prêtre, le légiste ou le samaritain? Et donc, on voit comme une sorte de révolution copernicienne, si on peut dire ça, hein, c'est qui s'est fait le prochain de l'autre? C'est-à-dire que au lieu de dire qui est mon prochain, ben, mon prochain, c'est l'homme tombé aux mains des bandits. Et lui, Jésus dit, celui qui s'est fait, le prochain n'est pas un état, mais un mouvement. Et donc, celui qui s'est fait prochain de l'autre, eh bien, je trouve que c'est pareil pour notre intelligence. On n'a pas là, on a à être. Il y a une forme de renversement avec le Christ, on rencontre les choses, mais le rôle de l'intelligence, c'est quelque part, va plus loin que la simple connaissance, etc., va plus loin que les anciens, c'est-à-dire que les Grecs, hein, mais pousse à l'amour, au fond. Hein, donc. Voilà, c'est un peu. Vous pouvez donner ce témoignage-là à travers votre travail intellectuel, qui est tellement important, qui peut faire tellement de bien autour de vous. Encore une fois, qui peut révéler des vocations, qui, si vous êtes profondément à la fois convaincu et compétent. Hein, voilà, je pense que. Et puis, peut témoigner aussi de la personne de Dieu et de la personne de Jésus quand c'est vécu dans l'humilité. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Simplement. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça.
Alors,
ouais, peut-être à méditer, voilà. Donc,
on est scotché.
on prend mieux.
Vous regrettez pas trop, quoi, non.